C'est tout pour l'actualité. Excellente matinée.
Vous êtes à l'écoute de Radio Plus sur 104.3, la radio de votre région, et l'émission L'Heure Flamande, préparée par Michel et Marie-Jo.
Alors, vous l'avez certainement remarqué, chers auditrices, chers auditeurs, que Marie-Jo et moi-même avons un petit fait pour la poésie. Et nous aimons tout particulièrement ce poète anversois, Émile Verhaeren. D'ailleurs, nous avons ici même consacré une émission pour vous faire découvrir ce poète flamand. Et bien sûr, nous avons essayé tout au long de nos émissions, de temps en temps, bien mieux vous le faire connaître en partageant certains de ses poèmes. Naturellement, il n'est pas le seul poète, Dieu merci, qui chante notre région flamande. Et nous allons donc au cours de cette émission vous en présenter quelques-uns. Naturellement, ils sont beaucoup plus nombreux que l'on peut l'imaginer. Il a fallu faire des choix. Et donc, nous allons consacrer donc ce numéro spécial à la poésie de ces poètes qui ont chanté notre région, ses traditions, ses pages de vie, tout simplement.
De zon en een bank en jij naast me die praat. Vol vuur zeg je wat er in je hart omgaat. Wild, mooi, groots en gek is elk plan dat je maakt. Terwijl de dag de nacht al zachtjes raakt. Stil aan hem, ster na ster, de hemel in. En ik geniet van maar het kan niet meer, zelfs niet voor één keer. En de aarde draait, en de wind die waait. En de wind die waait. Een boos in de jij loopt iets voor mij. Met een lach hou jij een lage taak opzij. Je hoofd is ver weg, maar je ogen staan zacht. Je draait je plots om, kijk me recht aan en lacht. Je wijst me dingen aan die ik zelf nooit zie. Het is heel gewoon, maar ik vind het magie. Maar het kan niet meer, zelfs niet voor één keer. En de aarde draait, en de wind die waait. Thank you.
Winner, vous interprétez And the Wind Divide et le vent qui souffle. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
Et aujourd'hui, nous avons choisi comme thème ces poètes qui chantent la Flandre. Et bien sûr, il a fallu faire des choix. Alors, nous avons donc limité notre choix sur les poètes lillois en particulier. Et on va suivre donc plutôt un ordre chronologique. Alors, évidemment, tout ça pour, bien sûr, remettre bien les choses dans leur contexte historique, il ne faut pas l'oublier. En effet, les auteurs, les poètes qui vivent avec leur temps, bien sûr, ils réagissent en fonction de leur propre actualité, leur sensibilité, qu'on peut, bien sûr, peut-être dire qu'elles sont un peu supérieures à la moyenne, certes, hein, puisque ce sont souvent des gens un peu écorchés vifs. Qui sont sensibles, bien sûr, à ce qui les entoure, aux hommes, à la nature. Alors, nous allons commencer par un poète chansonnier qui a d'ailleurs donné son nom d'artiste à une rue de la capitale des Flandres, Lille. Il s'agit de François Cotigny, dit Brûle-Maison. Alors, pourquoi ce surnom de Brûle-Maison? Eh bien, tout simplement, notre artiste, pour attirer les gens écouter quand il montait sur son estrade afin de partager les chansons, ses poèmes, et bien au bout d'un bâton il construisait une petite maisonnette en papier et il y mettait le feu, si bien que il attirait bien sûr les gens devant ce phénomène. Évidemment, les spectateurs ont très vite fait de le surnommer Brûle-Maison. Alors, Brûle-Maison donc est né le 16 janvier 1678 à Lille. Il était d'origine très modeste, il exerce plusieurs métiers, dont celui de mercier. Mais sa vocation première est bien sûr d'écrire des poèmes, écrire des chansons. Il voyage à travers la France, il se rend même à Rome. Et pour subvenir à ses besoins, eh bien, il fait des représentations. On raconte que ses écrits n'étaient pas toujours de grande valeur, ils étaient même certains visiblement très grossiers, mais sans doute que notre homme, tout simplement, s'adaptait à son public. Il vendait ses chansons, ses textes, plusieurs furent l'objet d'ailleurs de publications pour illustrer en particulier des calendriers qu'il revendait naturellement. Brûle-Maison était un esprit original. D'ailleurs, voilà ce qu'on écrivait à son propos, à propos donc de Brûle-Maison, François Cotigny.
Original toute sa vie, Brûle-Maison voulut l'être encore après sa mort. Il habitait une petite maison sur la place du théâtre. L'escalier en était tellement étroit qu'il ne permettait pas d'introduire aucun meuble dans le trou qui lui servait de chambre. Peu de temps avant sa mort, il fit appeler un charpentier, l'obligea de construire son cercueil sur place, et le jour de son enterrement, au grand ébahissement de tous les spectateurs, on fut obligé de le descendre par la fenêtre.
Voilà, donc déjà même après sa mort, il gardait cet esprit facétieux. Brûle-Maison, donc lillois, avait pris en dérision les Tourquenois, une ville voisine, donc ville rivale de Roubaix, rivale de Lille, c'était d'ailleurs ce qu'on surnommait à l'époque les sœurs ennemies. Et donc François Cotigny considérait ces Tourquenois comme des rustres, des gens pas très futés, on va dire, et qu'il a surnommé les Brouteux. Pourquoi les Brouteux? Tout simplement parce que les gens de Tourcoing, pour vendre leurs marchandises, ils utilisaient utilisaient une brouette particulière à très long manche où ils déposaient bien sûr leur travail et ils venaient jusqu'à Lille à pied pour aller vendre bien sûr leurs marchandises, leur laine peignée. Évidemment, les Lillois se moquaient de ces gens qui venaient, donc qui parcouraient quand même Tourcoing à Lille, ça fait quasiment 15 kilomètres, donc on peut imaginer toute la difficulté que ces gens avaient pour ramener jusqu'à Lille leurs marchandises et la vendre. Et François Cotigny, donc Brûle-Maison, eh bien, a écrit de nombreux textes pour se moquer de ces Tourquenois. Et d'ailleurs, nous allons écouter un petit extrait donc, de ce poème de François Cotigny, dit Brûle-Maison.
Non, je ne saurais pas faire sans canter âme ordinaire sur ces folies de Tourcoing. Pour boire, cela me va bien à point. Un Tourquenot, ben habillé, chez jour en passant par l'île, a aperçu un enfant, subtil, courir qu'avec un bruant. Un autre enfant, par derrière, crioua, dit joie à ce mère, « Va-t-il, chez un biominier. Ma mère, accotez-moi un, s'il vous plaît. » Pour contenter ce fillette, pour un liard une daquette, Tourquenois interdit. Yvette, chez là un banquier drouchi. Le Tourquenois, ben alerte, sitôt a pris brouette, et sa femme et ses enfants, tout net, s'en vont cacher à Bruant. Il s'en fut d'un plein courage, par chez haie et chez bocage. Il en remplit un tonneau, bénache, dit chez du bon et du bain. Il n'avaut plus de chaîne mille, s'en venoit tout droit à l'île, broue-toi tout en chifflotant Jean-Gilles pour amuser chez Bruant. Ah, donc ça, c'est un extrait d'un poème, pas d'une chanson.
Une chanson donc de François Cotigny
pour se moquer,
qui se moquait donc des Tourquenois. Et les Tourquenois eh bien, vont relever le gant en quelque sorte. Brûle-Maison est décédé en 1740, mais à peu près une centaine d'années plus tard, eh bien, un Tourquenois eh bien, va relever le gant. Il s'appelle Jules Watteux.
Het luiden van de klok bij wespen bij eentonig zoemen of s'nachts wanneer de zee de wandelaar lokt naar het verdronken land van nevel neer. Ik hoor het krijsen van de meeuwen. Ze reizen schijnbaar doelloos heen en weer naar het verdronken land van Saar. Op het strand, hun ogen glimmen in het maanlicht, maar geen ontsnapt nog uit het grauwe zand. Thank you. zag door de duistere nacht. Zij kent geheim van vele dingen. Ze wenkt me toe en lokt me met haar lach naar het verdronken land van Zaan.
Vous interprétez het verdronken land van de Saftingue, la terre inondée de Saftingue. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et vous pouvez aussi écouter l'émission, bien sûr, sur le site www.radioplus.fr. Et aujourd'hui, donc, nous évoquons quelques poètes lillois qui ont chanté la Flandre, ses traditions, ses petites gens. Et donc nous venons d'évoquer ici François Cotigny dit Brûle-Maison qui se moquait facilement donc des Tourquenois pour et bien tout simplement parce que ils amenaient à Lille à pied de Tourcoing jusqu'à Lille, soit quand même 15 km environ, leurs marchandises pour être vendues donc sur la place. Et ils les avaient surnommés les Brouteux. Et donc un bon siècle plus tard, et bien un certain poète, un écrivain, Jules Watteux, va prendre le surnom de Brouteux. Jules Watteux, il est né à Tourcoing en 1849 d'une famille de commerçants, le 29 juillet exactement, donc, et il n'était pas trop attiré par l'activité commerçante de ses parents, il était plutôt attiré par l'écriture, et c'est ainsi qu'il s'est dirigé vers une carrière de journaliste. Il était très attaché à sa ville de Tourcoing, et Donc, il a relevé le gant et il s'est surnommé le Brouteux. D'ailleurs, il va même créer une revue qui va s'appeler tout simplement La Brouette. Les gens de Tourcoing étaient fiers de ce monsieur qui, bien sûr, relevait la dignité, la fierté des gens de Tourcoing. Et d'ailleurs, les habitants de Tourcoing vont lui offrir une superbe maison qu'on peut encore voir aujourd'hui à Tourcoing. Malheureusement, on ne peut pas la visiter à l'intérieur, mais la façade est tout à fait remarquable. Jules Watteux donc va aussi écrire en picard plusieurs textes. Il faut savoir aussi que il écrit bien sûr en français, et naturellement c'est une chose d'ailleurs que nos amis flamands néerlandophones comme les flamands de Flandre gallicane ne comprennent pas toujours, que dans ce pays de Flandre, eh bien, les deux langues, néerlandaise et picarde, ont coexisté et tous les gens sont toujours revendiqués pour autant flamands, et on peut le voir à travers, bien sûr, l'histoire. Alors ici, pour vous faire découvrir l'œuvre un petit peu de Jules Watteux, eh bien, on va écouter un texte donc écrit par cet écrivain de Tourcoing.
Le Coulonneux. Ah, tain, j'ai vu. Qu'est-ce que vous avez, Adèle? Qu'est-ce que vous ne pouvez jamais à nos maisons? Je m'attends à corps, je le dis aux fidèles. Qu'est-ce qu'il y aura bien, voyons, aux jeunes régions? Ah ouais, t'es j'ai vu, Élise. Je sais que j'ai pour le cœur à Contin. Né, perdez une petite prise. Je vais vous conter ma chagrin. Maudit, Élise. Vais-tu que je suis malheureux, eux de vire que ma bâtisse y a tourné coulonneux. Faut vire un homme, c'est pire qu'un hirondelle. Devant nos maisons, il vole de haut en bas. À tout moment, il faut le vire batteux de l'aile. Je sais qu'il y a plus drôle de lui voir le vire un cas. Le vleur pille de ce ouvrage. Il n'a pas le temps de me vêtir. Il tueur, magrit sa potage, magie sa potage, au mitin de ce Colombie. Devant sa guernie, je ne sais n'un qui est chien qui brasse, mais je vous assure que si ça continue, il me laissera point faux que me paillasse. T'as ma ménage et bateau disparu. Il a pris un peu d'affaires des nichettes, le redemain car à bas baigné. Il a bien pris pour ses sales bêtes le porte de la commodité. Donc, bon, ça raconte un peu les déboires d'une dame avec son mari qui est passionné de pigeons et la passion dévore jusqu'à leur bien puisqu'il va jusqu'à emmener la porte des toilettes pour fabriquer son bon pigeonnier, son colombier. Voilà, donc c'est un extrait d'un poème qui s'appelle Le Coulonneux de Jules Watteux, dont nous ne lisons ce jour qu'un extrait.
Et que vous pourrez bien sûr découvrir à travers les recherches hein, de ces textes qui sont vraiment savoureux. Jules Watteux décéder à un grand âge, puisqu'il avait 97 ans. Il est mort le 28 mai 1940.
Heimwee naar huis, ik heb zo'n heimwee naar huis. Hier aan die kust vind ik nog vrede, nog rust. De blauwe zee sleept heel mijn hart met haar mee. Naar het stukje grond waar ik zoveel liefde vond. O, mijn lieveling, schrijf me gauw. Ik voel me zo alleen zonder jou. Heimwee naar huis, ik heb zo'n heimwee naar huis. Ik droom dag en nacht van het meisje dat op me wacht. De kleur van het zand is als het goud van haar haar. En het hemelblauw, blauw als die ogen van haar. Heimwee naar huis, ik heb naar huis, naar het plekje klein waar ik zo gelukkig zou zijn. Schip, neem me mee, heel ver, ver over de zee. Zwerven is uit, want ik heb zo'n heimwee naar huis. Treur niet meer, want ik kom weldra bij jou weer.
Vous interprétez Heimwee naar huis, la nostalgie, le chagrin d'être éloigné de la maison. Il est une chanson pleine de poésie où il parle de la couleur du sable, du bleu de la mer, du ciel bleu de sa région, de Flandre bien sûr. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus.
104.3. Un autre poète de langue picarde, c'est Léopold Simons. Or, Léopold Simons, lui, il aimait répéter « Mi je suis un flamand ». Il consacre d'ailleurs l'essentiel de son œuvre à défendre cette langue picarde si savoureuse, et qui d'ailleurs était surtout bien parlée typique de, dans les quartiers populaires de Lille, en particulier les quartiers de Fives et les faubourgs de la Poste. Malheureusement, Léopold Simons n'était pas très optimiste quant à l'avenir de cette langue. Il sentait bien que petit à petit, les jeunes générations bien, ne prenaient pas le relais. C'était la normalisation, on parlait le beau français. Et il en avait un petit peu, même s'il l'a exploité, il l'a utilisé pour essayer de diffuser, et rappelez-vous, pour les plus anciens, le petit quart d'heure le soir avant le journal télévisé, où on pouvait voir un petit sketch de Simons, avec souvent appuyé d'un dessin, car l'homme était aussi un bon dessinateur de dessins humoristiques bien souvent. Et donc, il a, à travers de nombreux sketchs, essayé de défendre sa région, ce parler typique, et aussi mettre à l'honneur eh bien, ce qu'on appelle les petites gens. Léopold Simons, il est né le 22 février 1901. Il va y décéder donc le 17 octobre 1979. Une association a été créée pour maintenir non seulement la mémoire de Léopold Simons, mais aussi son œuvre. Donc c'est l'association Tout dit Simons. Et je ne peux que vous inviter à regarder, c'est un support moderne, via YouTube, vous pouvez retrouver certains de ces sketchs qui sont particulièrement savoureux. Je pense par exemple en particulier au congé payé, ou aussi les vacances, où là on voit les fameux personnages Alphonse et Zulma, qui sont ces héros de préférence, vous raconter les petits aléas de la vie que chacun d'entre nous peut connaître, et tout ça dans cette langue savoureuse du Picard, typique donc des quartiers populaires de Lille. Un autre auteur qui lui est né dans la banlieue de Lille, c'est Léon Bouquet. Il est né le 11 août 1876 à Marquilly, dans une famille d'agriculteurs. Il fait de très brillantes études à l'université de Lille. Il a d'ailleurs une agrégation d'anglais. Il s'installe en 1906 à Paris, mais il garde une grande nostalgie de sa région. Il travaille en particulier comme traducteur et il garde une passion pour l'écriture. Il écrit des romans, mais des poèmes aussi. Et en 1900, il publie un ouvrage sous le titre « Flandre ». Est donc très attaché à sa région, et nous allons d'ailleurs écouter ce poème consacré à la Flandre, un de ses poèmes qu'il consacre donc à son pays si cher à son cœur, la Flandre.
À la Flandre, j'aime tes grands prés verts, tes plaines de houblon, tes vastes champs d'épis où courent les calandres, et par les beaux matins de brume, tes filandres prenant dans leurs lacis l'herbe et le colza blond. Surtout, j'aime tes soirs qui défaillent, ma Flandre, et tes bois sanglotants comme des violons, aux appels répétés, si mornes et si longs, des cloches vers ton ciel de grisaille et de cendre. Et ton pâle soleil qui meurt sur tes canaux, et ce vent qui, sans fin, pleure entre les roseaux, son hymne de tristesse et de lente agonie. Tes horizons d'automne éternel, doucement, en mon âme, ont versé leur langueur infinie, un charme de souffrance et de recueillement. Donc c'est Léon Bouquet, poème à la Flandre.
Léon Bouquet qui décède le 4 juin 1954, il sera enterré à Vicre, donc dans cette grande banlieue lilloise.
Op me wachtte, toen jij zo lief naar me lachte. En ik vroeg me af of ik niet liep te dromen. Ik nam je hand en we dansten. Ik zag jouw ogen, ze glansden.
dit misschien een sprookje? Maar die droom bleek al heel gauw die van ons beiden. Want sindsdien zijn jij.
Vanaf dag 1, depuis le premier jour, vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et nous consacrons ce numéro donc aux poètes lillois qui ont chanté la Flandre, les petits métiers, les petits plaisirs de ce peuple de Flandre. Un autre poète, c'est Amédée Prouvot. Amédée Prouvot, qui est né le 4 septembre 1877, d'une famille plutôt aisée, une famille qu'on appelait bourgeoise, une famille riche. Et qui va lui permettre d'ailleurs de beaucoup voyager, de rencontrer de nombreux cercles intellectuels à travers l'Europe, tout en faisant bien sûr en menant ses affaires, car aussi il faut gagner sa vie. Il a été particulièrement marqué par la vie d'un de ses ancêtres qui a été exécuté en 1794 pour ses idées royalistes. Amédée Prouvot collabore à de nombreuses revues, dont le Journal de Roubaix, mais aussi une autre revue qui s'appelle le Beffroi. Il est d'une nature très curieuse, il aime bien sûr échanger les idées à l'époque à travers ces cercles littéraires qu'on trouve à travers un peu toute l'Europe. Il aime particulièrement sa ville de Roubaix, cette ville-usine, cette ville de travail, cette ville aux multiples traditions qui concernent bien sûr souvent des occupations des gens après leur travail à l'usine, comme le concours des pinsons, les combats de coqs. Et d'ailleurs, il va consacrer un texte que l'on va écouter sur justement ces combats de coqs. Alors il faut aussi se rappeler que tout simplement à l'époque, eh bien, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télévision, et le peuple des usines, eh bien, il fallait bien qu'il trouve aussi des occupations. Et à travers, eh bien, comme on disait tout à l'heure, les concours de pigeons, de pinson, de coq, tout ça, ça faisait partie, tout simplement, eh bien, des loisirs des classes ouvrières du peuple roubaisien.
Combat de coq. Les plantureux flamands, aux trognes violettes, avec leurs cheveux roux et plats, vrais descendants des types de Bruegel, de Krasbeck ou Jordaens, dans la cour de l'auberge, ont des cris de conquête. Là, dans le parc étroit, deux coqs, entremêlant bec dur, ergots armés et la pourpre des crêtes, dans un duel rageur et stupide, s'apprêtent à ravir à la mort leur désespoir sanglant. Ils luttent, acharnés au cou. Les gosiers râlent, et les plumes bientôt sont comme des pétales qui feuilleraient un vent d'orage sur le sol. L'un des coqs est debout, vainqueur, et l'autre expire. Il monte une clameur. Dans la foule en délire, frémit la cruauté du vieux sang espagnol. C'est un poème combat de coq d'Amédée Prouveau, tiré d'un ouvrage qui s'appelle Le poème du travail et du rêve.
Donc Amédée Prouveau, qui était très attaché à cette ville ouvrière, qui était la ville aux mille cheminées, disait-on, la ville donc de Roubaix. Un autre poète particulièrement attaché à sa région et dont le nom certainement vous dira quelque chose, car il y a de nombreuses rues qui portent son nom, des places, des écoles, c'est Albert Samain. Albert Samain, il est né à Lille le 3 avril 1858 d'une famille de commerçants. Mais le décès de son père va l'obliger à quitter le lycée dès l'âge de 14 ans. Il doit aider sa mère, naturellement. Il fait plusieurs petits boulots, comme coursier, commis dans une banque. Mais en 1880, il décide de partir à Paris, où il est pris en charge par un ami de la famille, et qui le fait rentrer comme agent à la préfecture de la Seine en 1883. Albert Samain, très tôt, était intéressé par la littérature, et quand son emploi du temps le permettait, il allait fréquenter, bien sûr, les cercles littéraires très à la mode à l'époque. Il collabore en particulier à la revue Au Mercure de France, qui va publier d'ailleurs l'essentiel de ses poèmes. Il publie aussi dans la revue du Nord, la revue des Deux Mondes. Donc on s'aperçoit bien sûr qu'Albert Samain rencontre naturellement de très nombreuses personnalités, de nombreux auteurs, de nombreux poètes. Ses talents sont d'ailleurs très vite reconnus par ses pairs. Ses poèmes sont d'une grande sensibilité, ils sont tentés aussi de mélancolie. Il va le rencontrer en particulier Georges Rodenbach. D'ailleurs, nous avons aussi consacré ici même une émission particulière pour ce poète flamand, Georges Rodenbach. Il est très affecté par contre par le décès brutal de sa maman en 1899. Et est-ce une conséquence, toujours est-il, c'est que sa propre santé va se détériorer et il meurt à l'âge de 42 ans. Après sa disparition, donc il décède après peu de temps après la disparition de sa maman, il s'éteint donc le 18 août 1900. Il laisse une œuvre considérable, une œuvre riche, abondante, d'une très grande sensibilité. Et malgré sa vie à Paris, il est resté très très attaché à sa terre natale. Et écoutons d'ailleurs ce poème qu'il consacre justement à cette terre de Flandre.
Flandre, mon enfance captive a vécu dans des pierres, dans la ville où sans fin, vomissant le charbon, l'usine en feu dévore un peuple moribond. Et pour voir des jardins, je fermais les paupières. J'ai grandi, j'ai rêvé d'Orient, de lumière, de rivages de fleurs, où l'air tiède sent bon, de cités au nom d'or, et, seigneur vagabond, de pavés florentins où traînaient des rapières. Puis-je pris en dégoût le carton du décor, et maintenant j'entends en moi l'âme du Nord qui chante, et chaque jour j'aime d'un cœur plus fort ton air de sainte femme, ô ma terre de Flandre, ton peuple grave et droit, ennemi de l'esclandre, ta douceur de misère où le cœur se sent prendre, tes marais, tes prés verts où rouissent les lins, tes bateaux, ton ciel gris où tournent les moulins, et cette veuve en noir avec ses orphelins.
Et nous allons, avec Albert Samain, donc un poète de grande sensibilité, on ne résiste pas à vous faire écouter un deuxième poème qui est consacré à l'automne. Donc ce poème donc d'une grande sensibilité, donc consacré à cette saison.
Automne, appalant et suivi du chien de la maison, nous refaisons la route à présent trop connue. Un pâle automne saigne au fond de l'avenue, et des femmes en deuil passent à l'horizon. Comme dans un préau d'hospice ou de prison, l'air est calme et d'une tristesse contenue, et chaque feuille d'or tombe l'heure venue, ainsi qu'un souvenir lente sur le gazon. Le silence entre nous marche, cœur de mensonge, chacun, là du voyage, et mûr pour d'autres songes, rêve égoïstement de retourner au port. Mais les bois ont ce soir tant de mélancolie que notre cœur s'émeut à son tour et s'oublie à parler du passé sous le ciel qui s'endort, doucement, à mi-voix, comme d'un enfant mort. Automne, donc, d'Albert Samain.
Man sagt von Liebe, dass es sacht ist, aus dem Lief ein täter Wort. Man sagt von Liebe, dass es hart ist, und so vaak hat Glück vermocht. Men noemt haar hunker en verlangen. Men noemt haar redder in nood. Ik zeg dat liefde als een bloem is, waarop de zon haar stralen. Ze is het hart zo bang en breekbaar, zo wankel en zo broos. Ze is de droom bang voor het ontwaken, omdat ze dan de waarheid hoort. Wacht op wie haar nu wil plukken, op wie haar tranen steekt. Zo bang om vroeg te sterven, voor ze werkelijk heeft geleefd. Is de nacht zo koud en eenzaam, duurt het wachten veel te lang. Denk dan maar dat geluk alleen is voor wie er heeft. Love. nog nooit hebben verhinderd dat de roos hen overleeft.
Christie de Rose Lyrics. Vous êtes à l'écoute de l'heure flamande sur Radio Plus 104.3.
Et nous terminons cette émission des poètes qui chantent la Flandre par un artiste, Gustave Nadeau. Alors, comme son nom l'indique, ce n'est pas vraiment un nom de notre région. En effet, sa famille est originaire de Limoges, ce sont des commerçants. Et à l'époque, eh bien, tout simplement, Roubaix, comme Lille d'ailleurs, et Tourcoing, ce sont des villes où on vient faire des affaires, c'est des villes-usines. Et donc, la famille Nadeau arrive donc sur Roubaix. Gustave, lui, va naître d'ailleurs à Roubaix le 20 février 1820. Il y fera une grande partie de ses études, qui va achever à Paris en 1834. Mais très vite, il revient à Roubaix. C'est sa ville de cœur. Par contre, ses parents, eux, ben, ce sont des commerçants. Ils quittent en 1840 Roubaix pour s'installer à Paris et faire bien sûr des affaires. Gustave Nadeau, naturellement, n'a pas d'autre choix que de suivre ses parents pour qu'il les aide bien sûr dans son métier de commerçant. Mais lui, Gustave, n'est pas très attiré par le monde des affaires. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les cercles littéraires. Il collabore au journal Le Figaro, au journal Illustration. Et une de ses œuvres, d'ailleurs, il écrit beaucoup, une de ses œuvres, ça s'appelle Les Deux Gendarmes, qui sera d'ailleurs interdite par les autorités locales. On va d'ailleurs écouter un petit extrait de cette pièce, Les Deux Gendarmes.
Deux gendarmes, un beau dimanche, chevauchaient le long d'un sentier. L'un portait la sardine blanche, l'autre le jaune baudrier. Le premier dit d'un ton sonore, « Le temps est beau pour la saison. »« Brigadier, répondit Bandor, brigadier, vous avez raison. » Phébus, au bout de sa carrière, put encore les apercevoir. Le brigadier, de sa voix fière, troubla le silence du soir. « Vois, dit-il, le soleil qui dort les nuages à l'horizon. » « Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. »« Ah, c'est un métier difficile, garantir la propriété, défendre les champs et la ville du vol et de l'iniquité. Pourtant, l'épouse qui m'adore repose seule à la maison. »« Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. » »« Il me souvient de ma jeunesse, le temps passé ne me revient pas. » J'avais une folle maîtresse, pleine de mérite et d'appât. Mais le cœur, pourquoi, je l'ignore, aime à changer de garnison. Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. La gloire, c'est une couronne, faite de roses et de lauriers. J'ai servi Vénus et Bélone, je suis époux et brigadier. Mais je poursuis ce météore qui vers Colchose guide et Jason. Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison. Puis ils rêvèrent en silence. On n'entendit plus que le pas des chevaux marchant en cadence. Le brigadier ne parlait pas. Mais quand revint la pâle aurore, on entendit un vague son. Brigadier, répondit Pandore, brigadier, vous avez raison.
Voilà un petit extrait donc de cette pièce de Les Deux Gendarmes qui a fait l'objet d'une interdiction à l'époque. Alors, Gustave Nadeau va rencontrer d'ailleurs Eugène Potier, le célèbre auteur de l'International, même s'il ne partage pas ses idées politiques, et bien néanmoins, Gustave Nadeau ne va pas hésiter à l'aider financièrement d'ailleurs, parce que Nadeau n'est pas très attaché en fait à l'argent. Et d'ailleurs, il va mourir dans une grande misère le 28 avril 1893 à Paris. Néanmoins, Roubaix n'aura pas oublié son chantre, puisque ses cendres reposent dans un monument à Roubaix. Voilà, l'émission s'est terminer, nous vous souhaitons une excellente semaine sur Radio Plus. Et n'hésitez pas à garder l'écoute car une belle émission suivie, animée par Jean-Marie, va vous faire découvrir eh bien, toute la poésie musicale.
Radio, radio, luister naar de radio. Ga op de tafel staan, kom zet de radio aan en zet hem zeker niet te zacht. Radio.